Jazz en standard.
Le jazz est indispensable pour donner une force qui dépasse ce qu'on appelle la musique. Le jazz n'était pas une mode, et ça ne s'arrêterait plus.
Pourquoi ces terres chantées par le poète seraient-elles réservées à quelques privilégiés?
Le jazz est quelque chose qui forme une unité avec l'audience.
Ce sont précisément les gens qui n'aiment pas le jazz qui aiment dans le jazz le bruit.
Alors nous allons poursuivre notre périple à travers T42, ce standard que l'on note Vincent Humans. Vincent Humans, compositeur et producteur américain de Broadway, né à New York le 27 septembre 1898 et mort le 5 avril 1946. Il est l'auteur, comme je le disais dans une précédente émission, de nombreuses chansons, comme T42 bien sûr. On peut en citer une autre, I Want to Be Happy, qui est devenu également un standard. Et il a écrit aussi de nombreuses musiques de films, dont celle d'un film intitulé Carioca en 1933. C'est un musicien qui a beaucoup composé, qui a beaucoup dirigé aussi et qui a vu son œuvre largement reproduite. Alors, si T42 a beaucoup intéressé les musiciens de jazz, c'est parce que cette composition est à la fois très riche sur le plan mélodique, c'est un air dont on se souvient assez facilement, mais qu'elle a aussi pas mal de richesses harmoniques, et ça, on le sait moins, en tout cas quand on chantonne le morceau. Alors, il y a deux musiciens qui... très tôt ont fait leur propre investigation dans cette composition et qui l'ont fait à la manière de soliste, en ne jouant que d'un seul instrument. Il s'agit d'une part de Django Reinhardt et de Fats Waller. Django Reinhardt, en 1937, enregistre son interprétation de ce fameux T42. T42 donc par Django Reinhardt en guitare solo. Il n'a pas énormément enregistré en solo, et là on voit bien toute l'oreille et la qualité harmonique que peut avoir ce musicien d'exception. C'était le 21 décembre 1937 à Paris, pour la marque Swing, un des premiers labels de jazz en France. Quelques mois auparavant, un fameux pianiste allait faire de même aux États-Unis. C'était le 11 juin 1937, et bien c'était Fats Waller qui, en solo au piano à New York, enregistrait Tea for Two. Fats Waller, donc un maître du clavier. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il n'a pas appris la musique et que son arrivée dans le jazz est assez amusante. En effet, il a quitté l'école à 14 ans et déjà dans l'espoir de devenir pianiste professionnel. Alors, il commence par trouver des petits boulots qui lui permettent de se payer quelques partitions, mais il a du mal à lire les partitions. Alors il va aussi souvent que possible au Lincoln Theatre, qui est une salle où l'on projette des films muets, et lesquels films muets sont accompagnés par des airs que joue Miss Mullins, qui joue à la fois à l'orgue et au piano. Alors le petit Thomas Fats est donc fasciné par cette femme et passe des heures à la regarder jouer, indifférent aux films qui passent et attentif au seul doigt qui court sur le clavier. Et comme on dit dans le jargon des musiciens, il lui pique des plans, il retient des figures harmoniques et rythmiques qu'il retravaille ensuite sur son propre instrument. Et c'est ainsi qu'il progresse de manière phénoménale et que très rapidement, il atteint un niveau technique exceptionnel. Et en 1919, Fats remplace Miss Mullins au clavier du Lincoln Theatre. Et il n'a que 15 ans. Voilà, et c'est ainsi qu'il devient peu à peu un de ceux que l'on vient écouter pour sa parfaite connaissance et son parfaite couverture du clavier. C'est un musicien qui en a inspiré beaucoup et paradoxalement, il a inspiré le musicien qui va suivre, même si celui-ci a tendance à déconstruire un peu les mélodies. Alors c'est là qu'on voit que le standard s'adapte et permet des jeux très différents. Le musicien qui suit, c'est Thelonious Monk, le musicien dont les silences étaient aussi importants que les notes, disaient certains critiques. Et Monk va donc, qui s'est largement inspiré du jeu de Fats, qui va l'étirer dans le temps en introduisant donc le silence dans sa manière de jouer, Monk va lui-même enregistrer sa propre interprétation de Tea for Two. C'est en 1956, c'est en compagnie de Art Blakey à la batterie et d'Oscar Pettiford à la basse, basse qui joue quelquefois à l'archer d'ailleurs, c'était ça, une de ses caractéristiques. Thelonious Monk en 1956, le mois d'avril très exactement.
Mm-hmm.
Jazz en standard.